Bonjour Nicolas Bontou.
Bonjour.
Vous êtes directeur des offices de tourisme Saint-Marcellin-Vercors Isère Communauté, une grande intercommunalité on peut dire, puisqu'elle rassemble de nombreux villages et une diversité aussi de paysages qui est assez importante. Merci déjà de votre venue. Et puis, avant d'aborder quelques chiffres, et notamment en termes de fréquentation et puis aussi de perspectives, on est dans une charnière entre 2023-2024. Découvrir aussi ce qui fait vivre l'Office de tourisme au fil du temps. Bien, déjà donner peut-être un portrait de ce qui est représentatif, on pourrait dire, du territoire, ou plutôt des territoires. Ils sont assez distincts sur ce territoire que représentent ces 47 communes de l'intercommunalité.
47 communes sur, à la base, un territoire administratif, mais qui se recoupent sur notamment quatre thématiques phares, hein, à savoir le patrimoine, l'art de vivre, l'itinérance et aussi la découverte des paysages. Donc à partir de ces quatre thématiques, on arrive à donner un lien très fort et on est totalement pertinent à pouvoir du coup proposer ces offres-là. On dispose en fait notamment sur la thématique patrimoniale de plus beaux villages de France, de monuments historiques. Et puis on a d'ailleurs été par deux fois les bénéficiaires de la mission du patrimoine, donc le travail qui est mené en lien avec Stéphane Bern, donc Saint-Antoine-de-l'Abbaye. On a bénéficié en 2023 et c'est la Galicière à Châtes qui en a bénéficié en 2024. Donc on commence à avoir une certaine renommée là-dessus. Et ce travail de notoriété, c'est aussi le quotidien de l'Office de tourisme, de faire connaître cette destination qui a toute sa place à la fois au sein du Vercors, mais qui regroupe également aussi le massif des Chambarans, donc où est localisé Saint-Antoine à côté de Roibon et pas très loin d'Autrive, avec qui on travaille aussi beaucoup.
Alors ça fait une surface qui est assez conséquente sur ce territoire entre la montagne, la plaine et toute son étendue. Cela pour donc vocation de répartir un certain nombre d'offices sur cette surface.
Exactement. L'Office de tourisme dispose de trois bureaux d'information touristique. Un qui est localisé à Saint-Marcellin et deux autres qui sont à Pont-à-Royan, donc à l'entrée du Vercors, et à Saint-Antoine-de-l'Abbaye. Et pour faire fonctionner ces trois bureaux d'information, on a une équipe qui est là depuis quelques années, qui maîtrise très bien ces sujets. Aujourd'hui, on a 8 permanents au sein de l'Office de tourisme et on recrute de manière saisonnière par rapport au flux d'activité et aux horaires d'ouverture des bureaux d'information, 3 personnes supplémentaires. Et donc là, on est actuellement en recrutement et on devrait avoir trouvé assez rapidement les personnes qui vont rejoindre cette jolie équipe.
Alors du relief aussi dans l'année, on peut évoquer les 4 saisons puisque effectivement des sites sont ouverts, on peut visiter, on peut parler de patrimoine, de randonnée, mais il y a des saisons qui naturellement émergent plus que d'autres.
Oui, effectivement. Dans le tourisme, on a différentes typologies, que ce soit montagne, littoral, campagnard. Donc notre destination s'inscrit totalement dans le modèle campagnard et de moyenne montagne où il y a une activité saisonnière assez marquée. Dans la lettre de mission qui est confiée à l'Office du tourisme, ce n'est pas tant de développer juillet-août où on a déjà, on va dire, un niveau d'activité assez important. Et d'ailleurs aussi, pour respecter la capacité d'accueil des sites, on souhaite davantage valoriser les ailes de saison. Donc ce qui importe pour nous, c'est notamment avril, juin et de septembre à octobre, où on espère arriver à avoir un niveau d'activité un peu plus important au cours des prochaines années. Mais j'ai tendance à croire que on est dans la bonne direction, car depuis 2022, le niveau d'activité, notamment en termes de nuitée, n'a jamais été aussi important sur ce territoire et donc dépasse même le niveau d'avant Covid.
On va y revenir, notamment pour un retour sur l'année 2023. On peut estimer qu'il y a finalement plusieurs publics que vous ciblez de manière plus large ou plus resserrée selon les saisons.
Il y a beaucoup de choses à faire sur ce territoire et donc par conséquent, beaucoup de publics différents. On peut avoir, notamment dans les publics cibles de l'Office de tourisme, les couples avec ou sans enfants, les tribus, les tribus d'amis, hein, en fait, qui ont tendance justement à venir pratiquer différents sports sur ce territoire. Et ce qui est intéressant avec les tribus, c'est qu'il peut y avoir des regroupements hors saison et hors vacances scolaires. On cherche également à attirer les grands-parents avec petits-enfants, car on a une offre très familiale sur ce territoire, hein, beaucoup de sites touristiques qui sont adaptés à ce type de clientèle.
Mécaniquement, effectivement, l'été, vous n'avez pas besoin de faire plus de promotion que ça. Alors, c'est l'intersaison que vous optimisez pour encore donner un maillage plus continu dans l'année.
Effectivement, on communique l'ensemble de l'année sur le territoire. Mais voilà, on a ces saisons-là qui sont prioritaires pour nous et qui sont aussi conjuguées à l'ouverture de beaucoup de sites touristiques. Et donc, pour offrir une expérience pleine et entière à l'ensemble de nos visiteurs.
Vous êtes aussi observatoire en termes de tourisme sur Saint-Marcellin-Vercors-Isère-Communauté. Tout ce qui comporte des statistiques que vous pouvez recueillir. Il y a plusieurs étages de fréquentation que vous observez.
Effectivement, depuis quelques années, les offices de tourisme ont évolué, tout simplement. On a souvent tendance à garder en tête que l'office de tourisme, c'est de l'accueil, de l'information et de la promotion, mais pas que. On a aussi notamment ce travail d'accompagnement des professionnels, ce travail d'observation. La data, en fait, guide les actions, notamment en termes de marketing. Et l'office de tourisme Saint-Marcellin-Vercors-Isère a beaucoup investi ce sujet-là, que ce soit en temps humain, mais aussi s'est doté d'outils. Notamment un outil qui se base sur les téléphones mobiles et qui nous permet en fait de déterminer la provenance des clientèles, combien de temps ils sont restés, et aussi d'étudier sur des événements particuliers en fait la fréquentation sur un secteur bien prédéfini. Donc on a aussi des outils que l'on utilise de type la gestion de la taxe de séjour, car c'est bon une recette, mais c'est aussi de la donnée touristique importante.
C'est de plus en plus facile avec maintenant les moyens numériques, en fait, hein, de faire des statistiques. Ça vous facilite la vie maintenant avec tout ce qui est inscription en ligne, etc.
Effectivement, beaucoup d'outils sont digitalisés et maintenant, la problématique qu'on peut même presque avoir, c'est d'avoir trop d'outils. Donc, il faut que ces outils communiquent entre eux. Mais rien ne remplace l'humain et notamment pour la question d'interprétation. Donc, on essaie de justement s'appuyer énormément sur ces datas pour aussi définir les contours et les possibles changements d'action, l'office de tourisme, pour s'assurer d'être le plus efficient et efficace.
Nous nous situons à l'aube d'une grande saison qui va s'échelonner, d'après vos dires, de avril-mai, c'est un peu cela, jusqu'à octobre-novembre, c'est ça? Ça fait une grande saison qui va s'ouvrir.
Exactement. Et si on assure une certaine continuité entre 2022 et 2024, on est très confiant pour la saison à venir. On remarque déjà que entre la saison 2022 et 2023, notamment d'avril à octobre, on était autour de 140 000 nuitées, ce qui représente en fait une augmentation de 2% des nuitées sur cette période phare où nos hébergeurs ont été très actifs et aussi nos sites touristiques qui ont très bien fonctionné, que ce soit la grotte de Cheuranche, le jardin des fontaines pétrifiantes, le bateau à roues ou encore le musée de Saint-Antoine, qui pour ces différents sites ont augmenté leur fréquentation, mais pas que. On est aussi attentif à la qualité. Le quantitatif, c'est très bien, mais le qualitatif, on est très à l'écoute et ça fait partie d'un autre outil dont on dispose, qui agrège les données de Google, TripAdvisor, Booking et autres, et qui nous permet de donner une note sur 10. Oui. Et globalement, sur le territoire, on est quasiment à 9 sur 10, donc c'est-à-dire que les clientèles qui viennent sur notre territoire sont très satisfaites, ça veut dire qu'elles seront en mesure de recommander la destination et potentiellement de revenir.
Voilà. Fidèle à ce territoire, alors vous avez commencé à amorcer en 2023, donc plutôt positif, on pourrait dire globalement, pour ce qui concerne les différents secteurs du tourisme, hébergement, sites touristiques, restauration, hôtellerie, sites patrimoniaux.
Exactement. On est très satisfait de l'année 2023 et l'enquête de conjoncture qu'on avait pu réaliser auprès de nos professionnels nous confirme effectivement cette embellie. Il y a juste eu un petit bémol concernant les prestataires d'activité. Ce qu'on remarque, c'est que hôtellerie, restauration, même tout type d'hébergement ont très bien fonctionné, mais les activités parallèles, voilà, qui peuvent être, on va dire, les activités complémentaires, dans, on va dire, les choix des Français, des clients internationaux, n'ont pas été la priorité. On le remarque nous-mêmes, l'Office de tourisme commercialise des visites guidées. Et sur la clientèle individuelle, on a été, on va dire que le niveau de fréquentation était légèrement plus bas que d'habitude. Mais sur tout le reste des activités, on est assez satisfait. Sur l'année 2023, si on part de janvier à décembre, les nuitées marchandes et non marchandes, c'est-à-dire celles qui ont été générées par des opérateurs professionnels et les nuitées qui ont été réalisées en famille et chez des amis, ont augmenté de 8%. Sur la période d'avril à octobre, on est à quasi 5% d'augmentation. Donc on est aussi voilà, très satisfait que ça, hein, parce que le tourisme comprend les gens qu'on a réussi à faire venir, mais aussi les habitants qui font venir leur propre famille et qui ont potentiellement très envie de leur montrer les richesses de ce territoire. Et il y a aussi une partie de consommation touristique. Ouais.
C'est ce que vous appelez le flux de vision, c'est cela ?
Exactement. L'outil s'appelle le flux vision tourisme et capte les nuitées marchandes et non marchandes. Et cet outil, en fait, nous permet aussi de déterminer l'origine de ces clientèles-là. Hein. Donc sur à peu près les 800 000 nuitées marchandes et non marchandes qu'il y a eu en 2023, on sait que quasi un tiers provient de Auvergne-Rhône-Alpes, que la clientèle du Rhône est en légère augmentation, celle de la Drôme en légère baisse, mais que les clientèles étrangères sont de retour sur ce territoire. Ça avait été amorcé en 2022, mais ça s'est confirmé en 2023, notamment les Allemands, les Néerlandais et les Suisses. Donc ce sont des clientèles qui sont assez intéressantes pour nous parce que elles viennent en juillet-août, notamment pour la clientèle néerlandaise, mais la clientèle suisse vient en pré-saison. Donc on est totalement dans le type de personnes qui nous intéressent. D'autant plus que le pouvoir d'achat des Suisses est plus élevé que le nôtre, et donc une propension à consommer plus importante. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le tourisme, c'est aussi de l'économie, mais on essaie de faire ça justement dans le respect aussi des sites d'accueil, hein, que ce soit sites naturels et autres. Et on a justement un travail en cours depuis 2021 d'observation, de fréquentation de ces sites pour s'assurer que ça ne les dénature pas et que toutes les dispositions soient prises si on observe des fluctuations qui pourraient être néfastes.
Y a-t-il une corrélation entre, on le constate, hein, les étés de plus en plus chauds et la fréquentation, est-ce qu'il y a comme ça des choses qui se tiennent entre le réchauffement et les activités plus en augmentation ou en régression?
Là, exemple très concret, notamment des visites guidées de l'Office de tourisme, le matin, elle fonctionne beaucoup mieux que l'après-midi. Parce que l'après-midi, il fait extrêmement, il commence à faire plutôt chaud. Et d'ailleurs, on envisage de modifier l'horaire et on propose aussi des nocturnes, donc notamment à Port-en-Royans et à Saint-Antoine, et on voit que ça fonctionne énormément. Parce que on est plutôt à la fraîche et c'est très apprécié du public et on remarque aussi que notre territoire est comportant pas mal d'accès à l'eau, d'accès à la forêt aussi. Ce sont des sites qui sont très prisés pendant ces périodes de canicule ou tout simplement de forte chaleur et ça fait partie des aspects qu'on regarde de près. Donc c'est à la fois un avantage mais on est très vigilant par rapport à ça. C'est vrai qu'on ne cherche pas à outrance à développer le volume de nuitées, mais plutôt à l'étaler sur les saisons les plus favorables. Et pour cela, comme tout le monde, on s'adapte. Et on essaie de parler aux personnes que l'on souhaite au bon moment, avec le bon message et le bon support, notamment via le digital. Hein. C'est pour ça que depuis un an, on a totalement refait notre site web pour qu'il soit plus esthétique, pour qu'il soit plus performant. On a aussi changé le message que l'on adresse au travers des réseaux sociaux, par rapport aux différentes communautés que l'on anime au quotidien. Et l'autre élément qui nous permet de réagir et de rectifier, c'est aussi beaucoup d'écoute des professionnels du tourisme. Donc on cherche vraiment à créer un lien entre les opérateurs économiques, l'Office du tourisme, pour que on puisse adapter, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'offres de services, pour répondre au mieux aux pros qui sont aussi en quelque sorte un client de l'office de tourisme. Mmh. Il y a les visiteurs touristes, mais aussi les pros pour qui et avec on travaille.
Vous les accompagnez pour justement, on parlait de vos services qui sont parfois un peu en mutation pour la communication, les statistiques, mais les socioprofessionnels, tous les acteurs du tourisme qui sont peut-être parfois un peu perdus avec la manière de valoriser leur activité. Vous avez les moyens, vous êtes ressource de pouvoir les accompagner?
Là, pour le coup, c'est une vraie volonté de l'Office de tourisme de dédier du temps et des moyens pour l'accompagnement des professionnels. On a créé ce qu'on appelle des instants pro. Car on sait que ces opérateurs sont multitâches, ont peu de temps et on propose à peu près une fois par mois un éclairage sur une thématique particulière, que ce soit la tarification, que ce soit les réseaux sociaux, la gestion de la relation client, la gestion de la e-réputation, comment on gère les avis en ligne. Et c'est très apprécié. Tous nos ateliers sont pleins. On est obligé de faire des choix aussi. Malheureusement, on peut pas accueillir tout le monde. Donc, on reprogramme très souvent ces ateliers et on fait aussi des bilans de nos propres actions. Le taux de satisfaction est très important et on s'appuie à la fois sur les compétences de l'équipe de l'Office de tourisme et si les sujets sont trop pointus, on fait appel à des prestataires externes.
On peut faire un tout petit chapitre notamment sur la taxe de séjour et puis le phénomène aussi Airbnb qui donne des incidences sur comment vous voyez cela, ce phénomène de logement qui se multiplie, on pourrait dire, ce type de location un peu particulière.
Et effectivement, surtout sur tout type de territoire, on a vu depuis 5 à 10 ans le nombre d'annonces Airbnb explosé. Enfin, quand on dit Airbnb, c'est tous les opérateurs numériques, que ce soit Booking et autres. Aujourd'hui, ce qu'on observe, toujours via les différents outils de l'Office de tourisme, c'est que ils sont de plus en plus importants. On se demande, on s'interroge parfois si justement ces meublés peuvent avoir un impact sur les conditions de vie des habitants, potentiellement le logement par endroit. On sait que c'est très apprécié de la part des hébergeurs, car Airbnb propose une palette d'activités, la définition du prix, la gestion des réservations, la mise en relation entre l'offre et la demande. C'est très apprécié avec des conséquences, dont la commission qui est reversée, mais aussi des potentiels impacts autres sur les conditions de vie des habitants, l'accès au logement. Après, il y a aussi des avantages de pouvoir bénéficier d'offres d'hébergement dans des petites communes. Mmh. Auparavant, il n'y avait que les hôtels et les campings. Maintenant, des communes et des petits commerces de communes peuvent aussi vivre grâce, du moins en partie, à cette activité-là. Mmh. Donc aujourd'hui, on s'interroge, mais peut-être que le législateur va décider aussi de l'avenir. Il y a des discussions à l'échelle nationale sur l'encadrement encore plus strict de ce type d'activité.
Mais déjà, il y a une rétribution quand même sur le territoire de la location d'un appartement pour une nuit ou plus. Ça a progressé quand même en sens.
Aujourd'hui, données issues de la taxe de séjour qu'on utilise vraiment comme outil d'observation, 30% de la taxe de séjour est collectée par ces plateformes. Et ce qui permet de dégager ce travail-là de la part des hébergeurs. Pendant ce temps-là, ils peuvent faire autre chose. Mais oui, c'est plutôt prégnant sur ce territoire. On sait que c'est en développement. Auparavant, Airbnb, enfin du moins tous les opérateurs numériques en 2019 représentaient entre 4 et 5 000 euros sur le territoire de l'intercommunalité. Aujourd'hui, on est à 50 000 euros à peu près.
Oui. Ouais. Ah, mais c'est une progression assez marquée.
Oui.
Ça nous fait rebondir aussi sur l'emploi. Alors c'est peut-être la grande question dont s'occupe l'Observatoire du tourisme au sein de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a aussi une incidence sur le logement des saisonniers? On sait que dans les hautes stations, enfin haute altitude, ça pose quelques petits problèmes parfois de se loger pour ceux qui viennent travailler en saison. Est-ce que ça peut être le cas sur Saint-Marcellin-Vercors-Isère?
Ce que l'on sait en tout cas, c'est que un certain nombre d'opérateurs en 2023 ont eu des difficultés pour recruter des saisonniers. Pour la saison 2024, on a anticipé ceci en mettant en relation ces opérateurs avec notamment la Maison de l'Emploi qui les a accompagnés. Mais ça fait partie parfois des problématiques qui ont été relevées. Mais ça fait partie des chantiers sur lesquels on souhaite travailler à l'avenir, d'avoir une meilleure connaissance de la conjugaison du tourisme, du logement et de l'emploi. Car si on veut assurer une bonne qualité d'accueil aussi sur le territoire, bah, il faut que les entreprises soient staffées et que bah, aussi ces saisonniers soient dans de bonnes conditions, qu'ils ne dorment pas à la Belle Étoile ou autre, et que ils donnent le maximum pendant la saison dans toujours un objectif de satisfaction client.
D'ailleurs, au niveau de l'emploi, vous êtes aussi ressource dans le sens où vous êtes un peu opérateur pour tout ce qui concerne des offres sur le territoire et l'emploi, globalement.
Pour l'instant, bah, c'est une démarche en fait naissante. On échange énormément avec la maison de l'emploi sur le territoire et les professionnels pour essayer de déterminer quels accompagnements pourraient être nécessaires. Aujourd'hui, l'office de tourisme sur cette thématique et sur plein d'autres en fait met en relation. On sait qu'on a des besoins, on a des compétences, des offres de services et on joue ce rôle-là et on espère bien le faire.
On pense notamment au job dating, qui ont préfiguré peut-être cette volonté de porter un petit peu l'employabilité sur le secteur.
J'ai un très bon exemple en tête. Hein. L'hôtel à Saint-Marcelin a été repris il y a à peu près un an. Le nouveau propriétaire a souhaité staffer justement son équipe. Il recherchait des profils très particuliers. En lien avec Pôle emploi et la Maison de l'emploi, on a justement organisé un job dating dans leurs locaux où l'entrepreneur a pu présenter sa vision de la relation de travail, les différents emplois qui étaient proposés, avec un petit temps presse qui permettait aussi de marquer la reprise de l'établissement avec un nouveau projet qui est d'ailleurs assez amusant sur le concept des 70s. Donc il y a un nouveau positionnement total sur cet hôtel à Saint-Marcelin.
C'est une tendance de mettre des concepts parfois derrière les offres d'hébergement.
Exactement. Il y a un vrai positionnement très marqué de la part de cet entrepreneur, donc qui se joue d'ailleurs tant au restaurant que dans les chambres, où le côté 70s, disco, on le retrouve en fait à tous les étages.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Bontou pour ce tour d'horizon du tourisme sur le territoire de Saint-Marcelin-Vercors, Isère Communauté. Et puis bon courage pour cette nouvelle saison dont on peut retrouver les contours, ce qui constitue un petit peu l'ossature du tourisme sur le site qui est dédié et que vous animez, que vous mettez à jour continuellement. Vous pouvez nous donner l'adresse d'ailleurs.
Oui, tout simplement tourisme Saint-Marcelin-Vercors-Isère, donc avec une partie visible pour le public et le grand public, et bientôt un espace professionnel où on retrouvera toutes les données statistiques d'observatoires en quête de conjoncture à destination des professionnels qui souhaitent du coup consulter ces données.
Juste peut-être en post-scriptum, la fréquentation dans les offices avec tous les moyens numériques maintenant que l'on peut avoir à sa portée avant de découvrir un territoire, c'est quelque chose que vous constatez aussi, qui est peut-être une fluctuation dans les fréquentations des offices sur le territoire.
De manière générale, en France et sur le territoire, il y a une baisse généralisée des bureaux d'information touristique. Et la statistique qui ressort à chaque fois, c'est que moins d'une personne sur 10 passe la porte d'un office de tourisme. Et c'est pourquoi l'ensemble des offices de tourisme cherchent de nouveaux moyens de toucher les neuf autres. Donc ce qu'on a vu se développer depuis 10 ans, ce sont notamment les offices de tourisme mobiles, ce sont aussi les bureaux d'information hybrides qui accueillent différentes activités, notamment des tiers-lieux ou autres. L'office du tourisme justement cherche à capter ces gens-là, que ce soit directement sur ces bureaux d'information touristique, mais aussi en s'appuyant davantage sur les opérateurs du territoire, car en fait l'hébergeur est la première personne rencontrée par le touriste. Donc celui qui déterminera, on va dire, la bonne ou mauvaise impression du territoire, ça se joue pas tant à l'office de tourisme, mais ça se joue plutôt en fait à l'hébergement.
Voilà, c'est des ambassadeurs, on peut dire, de l'office.
Totalement. C'est un réseau et le job de l'office de tourisme, c'est notamment de s'assurer de la coordination et que tous les opérateurs qui font de l'accueil touristique aient toutes les clés en main pour offrir les meilleurs services et les meilleures informations.
Voilà. Vous visez une belle cohérence générale sur le territoire avec tout ce monde qui œuvre pour la fréquentation et l'émerveillement du public. Merci beaucoup, Nicolas Bontou.
Je vous remercie et à très bientôt.
À très bientôt.